Et une nouvelle semaine du Book Club débute sur France Culture. Et nous sommes ravis de vous y accueillir. Vous avez été très nombreuses et nombreux à nous écrire sur le compte Instagram pour enrichir la programmation et le programme de cette semaine. Ça nous touche beaucoup et nous vous adressons un grand merci.
Hashtag Book Club Culture.
Quand les émotions nous touchent, justement, on se sent parfois totalement impuissant, démuni. Et c'est sûrement ce qui fait notre force. On va réfléchir ce midi sur ce qu'est ce sens du toucher, sur les mots pour en parler et les gestes empêchés, sur les émotions aussi qu'il provoque en nous, puisque nous marchons dans l'affect de jour comme de nuit, à minuit et à midi.
Cette œuvre, elle est puissante de par sa monumentalité qui est constituée de 60 000 volumes.
Qui peut se lire comme on visite un musée unique en son genre, puisqu'il réunit des souvenirs tactiles.
Des brouillards, des nuages, des survivances.
Par le toucher, là où les mots échouent.
Le bon Dieu se trouve dans les détails.
France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau.
Anna, Daphné et Thibaut, nos lecteurs et lectrices du jour, qui vont nous éclairer, nous aider à sortir du brouillard dans notre discussion avec Claire Richard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, documentariste, journaliste. Vous venez de publier « Des mains heureuses, une archéologie du toucher » aux éditions du Seuil. C'est un essai, une sorte de journal que vous avez, où vous avez compacté quelques documents aussi. Quand est-ce que vous est venue l'idée de décrire et d'écrire sur le toucher ?
Et bah de façon assez banale, c'est venu pendant le moment du confinement où j'avais commencé à réfléchir à un dispositif qui était un musée des gestes empêchés. Où je me disais, ma question c'était qu'est-ce qu'il advient non seulement de ces gestes empêchés, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si on en perdait la mémoire, c'est-à-dire si on n'avait plus le souvenir pour même les refaire, quoi, plus les plans. Donc j'avais commencé à travailler là-dessus et par ailleurs j'étais enceinte pendant le confinement. Et du coup, il y avait en parallèle cette découverte de la grossesse et de la maternité, et donc d'un moment qui, pour moi, était assez nouveau, puisque je me sentais plus du tout soutenue par le langage ou par les mots, par tous les concepts autour de cette expérience. Et donc, j'ai un peu cessé de lire, et donc c'est aussi ça qui m'a fait entrer dans un autre continent qui était celui du toucher.
Vous dites le toucher comme la maternité sape nos idéaux de maîtrise. Vous vous sentiez décontenancée ?
Profondément, je pense que quand on a une toute petite personne qui vient de naître, c'est vraiment la situation la plus décontenancante, étant pas vraiment un mot, mais ouais. Profondément, ouais. Et à la fois parce que j'avais le sentiment, donc effectivement il y a toute cette nouveauté, des choses qui sont très banales à dire, mais dont l'existentiel bouleversement reste quand même fou, qui est qu'il y a une toute petite vie, toute petite consciente, et que sans nos gestes, elle meurt. Et donc cette situation-là était assez folle, et je trouvais effectivement pas dans tous les discours qui entourent la maternité, l'accès à la parentalité, que ce soit du côté du bien-être, du côté, mais y compris de la critique féministe, qui en fait un peu le paradigme de l'aliénation, en tout cas dans une certaine critique féministe, me sentais pas non plus soutenue à cet endroit-là. Donc ça a été comme une forme de d'immense découverte. Faites de plein de petits vertiges, quoi.
Et ça donne ce livre, donc, essaie à lire aussi pour partager ce moment qui doit être partagé par de nombreuses femmes pour discuter, échanger avec vous. On a convié le philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez ce jeudi votre ouvrage intitulé « Brouillard de peine et de désir », sous-titré « Fait d'affect 1 ». Il paraît aux éditions de Minuit, où paraît aussi, je le signale, le tout dernier numéro de la revue Critique qui est entièrement consacré à vous, un numéro spécial donc. Votre titre, Brouillard de peine et de désir, vous parlez évidemment dans votre ouvrage par image, ça c'est votre habitude, votre façon de réfléchir aussi, mais vous traitez cette fois-ci d'affect et d'émotion. Ce que vient de dire Claire Richard vous parle ?
Oui, bien sûr, mais je pense que dès qu'on parle d'image, on parle d'affect, d'affection, d'émotion, d'émoi, de sentiment, j'ai beaucoup aimé dans votre livre, il y a un moment donné, vous regardez quelqu'un que vous aimez, et derrière, il y a un tableau de Gerhard Richter, qui est un peintre avec qui j'ai fait des choses. Et voilà, quand on regarde, on est regardé. Quand on est regardé, il arrive qu'on soit touché. Et alors à ce moment-là, on se demande, mais alors qu'est-ce que ça veut dire toucher dans ce cas-là, toucher. Et bien sûr, donc tous ces thèmes, images, émotions et gestes, parce que les gestes sont très importants dans votre livre, hein, Claire Richard, voilà, tout ça est lié. Hein. D'ailleurs, le grand historien de l'art qui a beaucoup innervé mon propre travail, que je considère un peu comme les psychanalystes considéreraient Freud, par exemple, c'est-à-dire le créateur d'une discipline, hein, Abi Warburg, eh bien, il s'intéressait d'une certaine façon aux images en tant que gestes.
Et on va en parler parce qu'il y a des lecteurs et lectrices du Book Club qui nous ont parlé de l'œuvre d'Abi Warburg et notamment donc de cette bibliothèque qu'il a constituée et on y reviendra dans un instant. D'abord peut-être, puisque votre livre Claire Richard est déjà sorti, eh bien Daphné qui est libraire à Paris l'a déjà lu et voici ce qu'elle en pense.
Le livre des mains heureuses, une archéologie du toucher, peut se lire comme on visite un musée. Un musée unique en son genre, puisqu'il réunit des souvenirs tactiles. D'abord, ceux de l'autrice elle-même. En faisant de sa maternité et de sa grossesse un des fils rouges de sa réflexion, elle démontre les limites et les impossibilités à penser la parentalité hors des normes et des stéréotypes. Elle propose non pas de renouveler les discours et les représentations, mais plutôt de s'y soustraire et d'appréhender plus librement la réalité de cet événement par le toucher, là où les mots échouent. Et puis, à cette trame s'ajoutent d'autres voix, des témoignages, des anecdotes, aux provenances multiples, amenées comme des pistes qu'on a envie de prolonger en tant que lecteur. Claire Richard réussit le tour de force de marquer durablement après la lecture, puisqu'elle attire l'attention sur nos corps en contact, leur capacité à sentir, à se souvenir et à transformer le monde qui nous entoure.
Une réaction, Claire Richard, à ce que vous venez d'entendre ?
Je suis très touchée, ce qui est un peu évident. Non, mais je suis très heureuse de ce qu'elle dit, de la maternité, parce que c'est effectivement moi mon propre point d'entrée dans cette question du toucher et du livre et la façon de l'aborder, mais aussi le fait que tous les témoignages qui y sont rassemblés fassent pour elle office de piste. Parce que moi, je les vois un peu comme... Donc, je les ai réunis par un appel à témoignages.
Voilà, racontez-nous comment ça s'est passé.
Ouais, parce qu'il y avait d'emblée l'idée que ma vie, à moi, justifiait pas du tout l'idée que j'en raconte tous les gestes. C'était pas avant la maternité, c'était pas un sujet qui était proche de moi. Et par ailleurs, ça m'intéresse aussi, en tant qu'autrice, comment la parole personnelle, elle s'articule avec la parole collective, et cet endroit du très commun et du très intime. Et la maternité, c'est l'archétype de ça. C'est une expérience extrêmement sociale, balisée, etc. et en même temps extrêmement intime. Et donc, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait d'autres voix. Et la forme de l'appel à témoignage est venue assez facilement parce que je me sentais pas du tout d'aller pêcher. En fait, je voulais pas identifier des choses dont j'aurais imaginé qu'elles soient importantes, du type, une sorte de typologie, une infirmière, un thalatopracteur, je sais pas, une danseuse. Et l'avantage de l'appel à témoignage, c'est que je me suis dit, ne répondront que les gens pour qui ça résonne. Et moi, je cherchais des gestes banals. Je voulais pas des grandes envolées. Et donc, pour moi, ces textes que, donc, soit ils sont publiés sous la forme dont on me les a envoyés ou je les ai un peu lissés, mais globalement, quand même, c'est ça. Je les vois comme des petits noyaux, un peu, irradiants, au sens où ils veulent dire quelque chose de très fort pour les personnes qui me les ont envoyés. Et je pense aussi que par leur universalité, parce qu'il est question de main de grand-mère, de deuil, de perte, de premier lien, de violence, ils font écho à d'autres gestes. Voilà, donc je suis ravie qu'elle ait ressenti ces ouvertures-là.
Vous parlez de gestes banals. Quand vous parlez de cette expérience de confinement, il y a les gestes interdits par le Covid, se faire la bise, se serrer la main, se toucher même soi-même son visage. Ça parle aussi à tout le monde aujourd'hui. Et ce sont des gestes, c'est ces gestes-là dont vous aviez peur qu'on perde la mémoire aussi.
En fait, je pense qu'il y a eu un peu deux temps du projet. Au tout début, il y avait l'idée qui, je pense, on avait tous, qui était que ces gestes ne reviendraient pas et qu'est-ce qui serait pour toujours modifié. Et je pense que ce qui est venu de façon très claire, c'est que ces gestes sont si constitutifs de notre être au monde, de notre façon constamment d'être avec nos proches et dans le monde, qui sont revenus très vite. Donc ça s'est modifié pour revenir sur du très quotidien, parce qu'aussi, justement parce qu'ils sont si banals, ils sont assez peu, finalement... regardés dans leur banalité même, quoi.
Et pourtant, ils sont beaucoup représentés depuis toujours, Georges Didier Huberman, ces gestes simples de la vie quotidienne.
Alors, les gestes sont représentés, ils sont également... Ils surgissent de façon inopinée, inattendue. Et moi, je suis frappé en écoutant cette libraire parler de votre livre. Hein. Elle parle de souvenirs tactiles. Et vous faites bien de préciser que c'est pas seulement vous, c'est pas seulement moi, je. C'est ça qui est très beau hein, dans ce livre, c'est l'appel à l'autre. Et d'autre part, l'autre, c'est aussi, je dirais, l'inconscient. C'est-à-dire que on a de la mémoire tactile au-delà de nos propres souvenirs. Hein, je me souviens par exemple d'une magnifique description par Pasolini de l'actrice Anna Magnani. Elle est magnifique, elle boit du champagne, etc. Et il repère dans ses gestes le fait que, en fait, elle répète les gestes de sa grand-mère paysanne. Et voilà. On peut avoir des gestes de son époque. Comme je dis quelquefois à des jeunes gens que je rencontre, vous avez des gestes de votre époque, mais si justement vous donnez naissance, par exemple, ou si vous avez un deuil, vous allez avoir des gestes qui dépassent votre présent. Mm-hmm. Et ça s'appelle la survivance. Voilà, c'est une des choses qui m'intéresse. Hein. Et elle avait raison, cette dame qui vous a bien lu, donc, de parler d'une bibliothèque. Parce que, en effet, il y a une sorte de bibliothèque de gestes que on ne sait même pas qu'on les fait, qu'on les met en acte. Hein, vous êtes d'accord ?
Absolument. Et non, effectivement, et cette question de la qui moi m'a vraiment saisie au moment de la maternité, c'est qu'on entre avec dans quelque chose qui est radicalement neuf pour soi, comme vous dites, dans une série de formes. Social, mais vraiment gestuel. Il y a cette espèce de il y a cette petite grammaire du coup de gestes, bercer, nourrir, langer, des infinitifs qu'on connaît. Et enfin, en tout cas, moi, je me trouvais dans cette situation d'être, de devoir. Enfin voilà, c'était comme si je voyais devant moi et la forme et la façon. Enfin justement, je la voyais pas, mais il allait falloir m'en saisir. Et le livre de Georges Didier Huberman n'est pas sorti, mais j'ai pu lire un peu les épreuves. Et vous dites à un moment que les émotions nous rendent analphabètes, que c'est comme si soudain on devait réinventer et apprendre. Et je m'étais dit que ça faisait vraiment écho à ce que moi j'avais ressenti dans cet endroit de la maternité face à ces gestes, parce que j'y faisais attention, mais que ça m'avait rendu analphabète de cette gestuelle et qu'il fallait la réapprendre. Enfin, en tout cas, plutôt y reprêter attention.
Et après coup, écrire un livre. Donc, réorganiser vos lettres,
absolument,
en quelque sorte. Oui.
Et remettre des mots aussi sur tout ça, c'était un peu l'idée du départ, c'est-à-dire ne plus avoir d'attrait pour la lecture, d'attrait pour de nouveautés, pour la découverte de nouvelles choses aussi, et boucler la boucle, en quelque sorte, en remettant des mots sur tout ce que vous aviez vécu.
Remettre en mouvement, parce que moi, ce qui m'avait frappé dans ce que je lisais autour de la maternité, puisque j'ai plutôt tendance à lire beaucoup de sciences sociales pour éclairer mon expérience, j'avais vraiment le sentiment que ça, j'avais vraiment le sentiment d'une couche de sel sur l'expérience, globalement, de choses qui venaient figer parce que c'était des gros blocs.
Un temps arrêté aussi.
Ouais, mais plus. Ou peut-être, bon, c'est aussi moi, je suis très sensible aux injonctions, hein, mais ça faisait du coup, j'avais vraiment le sentiment d'être entre une série de statues de sel et. Aborder ça par la question du toucher et aussi toutes ces ouvertures et d'autres touchés. Ça créait deux effets. L'impression que si je faisais vraiment attention à ce qui se passait dans un geste vraiment banal de tenir mon fils pour de quelques mois pour le mettre au lit, ou en fait apparaissait toute une gamme, c'est comme si ça se dépliait, toute une gamme d'affects et d'alternance, d'intensité qui devenait beaucoup plus intéressante et qui remettait effectivement du mouvement dans cette idée de la maternité. Et c'est un peu ça l'idée du livre. Remettre du mouvement.
Alors, si on vous a réunis dans ce studio tous les deux, c'est parce qu'il y a des choses très évidemment en commun dans vos deux livres. Et ce qui nous a marqué, notamment, c'est cette métaphore qui vous est commune, celle du cœur, du mouvement de dilatation et de contraction. J'ai découvert en même temps que les nuits sans sommeil, écrivez-vous Claire Richard, l'immense continent des gestes de la maternité, leur pouvoir libérateur et étouffant, ce grand mouvement de systole et de diastole qui alterne sans trêve les contraintes et les échappées. Georges Didier Huberman, vous écrivez-vous, affect et représentation ne seront plus les deux antagonistes de systèmes incompatibles, mais les deux moments, comme diastole et systole, d'un même rythme inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire de votre façon de réfléchir ou de voir en tout cas les choses ?
Vous voulez commencer?
Je vous en prie.
Ce battement de cœur, c'est en tant que battement qui nous fait vivre. S'il y avait seulement une diastole, on n'y arriverait pas, ni non plus une systole. Et en fait, tout est comme ça. Moi, je vois tout comme ça. C'est-à-dire, je vois tout sous l'angle du rythme. Je dirais même que pour reprendre l'expérience dont parle Claire vis-à-vis de son bébé, quand on caresse quelqu'un qu'on aime, faut bien voir que si on pose simplement la main, on va sentir le contact de sa peau et de sa propre peau et de la peau de l'autre. Et puis ça va disparaître si on ne bouge pas. Une caresse, ça suppose qu'on bouge, qu'on fasse un mouvement. Et donc, si vous voulez, là, il y a à la fois des éléments de notre expérience de tous les jours et des grands enjeux philosophiques. C'est-à-dire que moi, je vais chercher aussi bien dans des petites expériences. Là, c'est vrai que mon livre commence avec une expérience où il y a de la diastole et de la systole, mais dans un cas de danger pour le cœur, justement. Mais aussi la vie historique de la philosophie, la bibliothèque dont parlait cette dame-là, elle est là à tous les moments. Il y a des très grandes philosophies sur la caresse, sur le rythme, sur le toucher, bien sûr. Voilà.
Claire Richard, sur ce mouvement, cette idée du cœur qui bat.
Ouais, absolument. Pour moi, c'est vrai que c'est cette même alternance où entre, moi, je le pensais aussi beaucoup entre la question de la norme telle qu'elle s'incarne dans des formes de gestes, des formes corporelles, des formes d'être. En fait, au sens large, et les interstices de libération. Et c'est parce que c'est une question qui m'intéresse, la question des libérations. Et de plus en plus, effectivement, j'ai l'impression que c'est ça aussi que moi que m'a appris la maternité et la réflexion sur le toucher, parce que comme le disait Georges Didier Berman, c'est des beaucoup de choses s'y jouent en alternance constante. Justement, la question de du contact, de la rencontre, de la liberté de l'autre qui peut s'y soustraire ou pas en fonction de l'endroit où il est. Et donc pour moi, c'était vraiment aussi une façon de comprendre un peu différemment la libération, non comme un grand arrachement, alors c'est un peu évident dit comme ça, mais en tout cas moi je le percevais plus sous cet angle-là, mais comme des façons de trouver de façon un peu vibratoire des façons d'habiter les formes dont on hérite, quoi.
Alors justement, puisque vous parlez d'héritage, de mémoire, vous avez cité le nom de cet historien d'art allemand, Abi Warburg, qui, comme un collectionneur, a constitué une immense bibliothèque privée dans laquelle il a installé ce qu'il a appelé son atlas mnémosyne. Et c'est notre lecteur Thibaut qui nous en parle.
Pour moi, l'atlas mnémosyne de Abi Warburg est un corpus d'images qui a pour but de retracer les recherches de l'artiste historien. On pourrait comparer cela, par exemple, à un carnet de recherche où on s'essaye, on se questionne, où l'on produit. Et cette œuvre, elle est puissante de par sa monumentalité, due à sa densité extraordinaire, qui est constituée de 60 000 volumes. Elle montre un travail de recherche qu'il y a derrière chaque artiste, la densité de thèmes, de documents, de photographies qui constituent un travail original et inimitable. Et cette production, justement, inimitable, elle est due à son côté extrêmement personnel, ce qui m'a donné par ailleurs envie de créer mon propre atlas mnémosyme avec mes thèmes, mes photos, mes recherches, qui sont complètement décalées par rapport à Abi Warburg, puisque lui est dans un autre siècle. Et ce que j'aime également dans cette pratique de l'atlas mnémosyme, c'est que l'œuvre, elle n'est jamais finie, elle n'est jamais aboutie, et elle a pour fonction d'être réactualisée assez souvent finalement. Et c'est ce qui a été le cas d'Abi Warburg, puisqu'il a actualisé son atlas mnémosyme jusqu'à la fin de ses jours.
Quand Thibaut dit qu'il veut faire lui aussi son propre atlas, Claire Richard, je vous ai vu sourire, parce qu'il y a quelque chose, une forme de mimétisme aussi, puisque vous vous dites « j'aimerais pouvoir en faire de même avec les gestes que je découvre ». Il y a cette idée aussi de documenter, d'organiser, de montrer.
Ouais, il y avait ça, et aussi l'idée qui m'avait vraiment saisie en lisant justement un article de Georges Didier Berman sur cet atlas, qui était, et dont vous parliez tout à l'heure, quoi, cette idée des hantises, en fait, des survivances, les gestes à travers le temps. Et du coup, de ce temps comme forme de boucle, de récursivité, un peu de choses qui reviennent de façon fantomatique. Et ça, pour le coup, c'était la question que je me posais beaucoup dans cette avec cet objet qui était les gestes de la maternité, quoi. Ce geste de bercer qui est, comme vous disiez, une forme vraiment immémoriale. Et soudain, en fait, on l'acte tout simplement à la maternité. Personne nous l'apprend, mais elle est là. Et donc, c'était très intriguant aussi de se demander, mais d'où vient-elle, cette forme, et comment elle voyage? Et c'est de ça dont je parlais. Je me disais, j'aimerais tant pouvoir déplier le millefeuille qui aboutit à ces gestes et comprendre comment ils voyagent. Évidemment, le livre apporte pas du tout la réponse, hein, mais c'est cet effet de dépliage, je ne sais pas, de déplier qui m'intéressait.
Georges Dédie Huberman, il faut savoir d'où viennent ces gestes pour pouvoir les faire ou pas?
D'où ils viennent, ce qui est sûr, c'est que ça voyage. Ça voyage dans l'espace et ça voyage dans le temps. C'est ça que Warburg a montré, c'est qu'une image, c'est une migrante. On ne peut pas comprendre Botticelli si on n'a pas compris comment les tableaux du nord de l'Europe sont arrivés à Florence, ou l'astrologie arabe est arrivée en Italie, etc., etc. Bon. Donc ça voyage dans l'espace, ça voyage dans le temps, et voilà, je reviens sur cette idée d'inconscient, hein. Il y a ce voyage, il se fait par en dessous, puis ça ressurgit ici et là. Alors il y a deux choses à propos de Warburg, de ce que disait votre lecteur, ou j'ai pas très bien.
C'est ça, Thibaut.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a d'une part une bibliothèque que Warburg a élaborée toute sa vie, grâce aux subsides de sa famille, et qui est une bibliothèque totalement fascinante. Pourquoi ? Parce que c'est une bibliothèque de problèmes. C'est-à-dire, si vous restez quelques jours dans cette bibliothèque, petit à petit, vous avez cette impression que la bibliothèque vous parle, vous donne des idées de voilà. C'est pas du tout une bibliothèque classée normalement. Elle est incroyable. Donc moi, j'ai beaucoup fréquenté cette bibliothèque. Bon, l'Atlas Mnemosyne, c'est autre chose. C'est un moment où Warburg sortait d'un long épisode de psychose très très grave. Il était totalement délirant, quoi. Donc, à cause de la guerre de 14, enfin bon, il y avait plein de... Et donc, il est sorti de ça, justement, peut-être un peu analphabète, avec cette difficulté à écrire, et il a redisposé sur des planches les images qui lui poser problème. Il avait le but d'écrire là-dessus, il l'a jamais fait, du coup c'est un objet très mystérieux et très très beau, cet atlas. On comprend pas toujours comment on passe d'une image à l'autre, mais c'est comme un film de Godard, quoi. C'est magnifique. Voilà.
Il y a évidemment et vous en parliez il y a quelques instants, dans l'art aussi, et vous citez dans Brouillard de peine et de désir, Rembrandt et sa décision de revenir à la vie pauvre des mains. Et cette histoire, cette idée des mains, oui, elle est aussi très importante, et vous l'avez analysée à travers évidemment l'art et l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, les mains? Qu'est-ce que nous disent les mains dans les œuvres que vous avez regardées avec attention?
Alors, on sait bien que dans les grottes préhistoriques, hein, Lascaux, la grotte Chauvet, il y a ce qu'on appelle ces mains négatives là, sur les... Bon, souvent les archéologues se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce qu'elles saisissent et tout ça? Moi, j'ai essayé de dire, bah, regardez juste qu'elles sont là. Quand on entre dans la grotte, bah, elles nous saluent, mais même si on est un ours, elles nous saluent. Enfin bon, en fait, ces mains ne signifient rien, elles font signe. Donc là, c'est là-dessus, voilà, il faut élaborer philosophiquement une sorte de modestie vis-à-vis de ce qu'on cherche à obtenir quand on dit, voilà, ce geste signifie ceci. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Un geste peut signifier beaucoup, beaucoup de choses, y compris contradictoires. Et alors là, c'est là que ça devient bouleversant, d'ailleurs, à ce moment-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, je suis absolument d'accord. Même si, enfin, sur le fait que, parce que c'est une question que je me suis posée un moment dans la composition, de est-ce qu'il fallait chercher une forme, bah, évidemment pas d'exhaustivité, mais comment arranger tout ça. Or, très vite. Et puis évidemment, chaque geste n'a pas la même signification selon la culture, etc. Parce que comme vous dites, c'est ça, il y a cette idée que un geste peut signifier beaucoup de choses et être contradictoire. Et je trouve ça très beau ce que vous dites d'élaborer philosophiquement une forme d'humilité face aux significations qu'on peut leur donner. Mmh. Et c'était ça aussi l'intérêt d'avoir des témoignages, en fait. C'est des souvenirs tactiles de gens. Et quelque part, ça n'est que ça et c'est tout ça. Donc il n'y a pas de prétention à épuiser une grammaire ou même la signification du toucher. Mais à avoir, c'est un peu ces blocs d'affect autour des gestes.
On est assez d'accord et moi j'ai pris mes témoignages alors chez Rembrandt, Husserl, Freud, etc. Enfin bon, des choses très très disparates. Mais en fait, avec cette même curiosité et cette même humilité, et de dire, voilà, c'est comme des constellations, on sait pas, on va pas obtenir un système ni une définition, et on va aller d'émotion en émoi, en toucher, en regard, voilà.
France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau.
Et nos invités qui sont avec nous, Georges Didi Huberman, philosophe, historien de l'art, et Claire Richard, on continue de parler du toucher et des affects. Claire Richard, votre livre s'appelle « Des mains heureuses, une archéologie du toucher ». Qu'est-ce que c'est ces mains heureuses? C'est votre amie Lucie qui vous donne cette expression, si je me souviens bien, c'est ça?
Alors non, c'est... Je l'avais trouvé dans un article d'ethnographie. Parce que quand j'avais commencé, c'était pendant le confinement, donc je lisais beaucoup de... En fait, ce qui m'intéressait, c'était des descriptions fines de ce qui se passe quand on se touche. Donc je lisais beaucoup de trucs d'ethnographie. Et j'avais trouvé un article que j'avais trouvé très beau sur les sourciers. Donc ces gens qui, avec des bâtons, cherchent l'eau souterraine. Et la description de leur toucher... Qui disait en termes de vibration, en fait, en termes de réceptivité aussi à ce qui se passe dans ces courants souterrains. Et l'une des personnes dont les propos étaient rapportés disait que pour lui c'était avoir les mains heureuses. Et c'était cette expression et je la trouvais très belle déjà en termes d'évocation, mais aussi de ce qu'elle disait, puisque avoir les mains heureuses pour un sourcier, en fait, c'est être capable, littéralement, de se laisser affecter par ce qu'il ou elle reçoit et du coup de suivre les courants telluriques, voilà.
Ça vous inspire quoi, les mains heureuses, Georges Didi Huberman?
Non, ça m'inspire la sensibilité tactile, qui est que, je reviens à l'idée précédente, qui est que quand on touche, ce n'est pas pour attraper. Donc, moi, ce qui me fascine dans les images, c'est leur côté papillon, c'est-à-dire soit vous avez envie de bien les observer sur la planche en liège, mais pour ça, il va falloir tuer le papillon. Soit vous acceptez de pas tout voir du papillon, de voir son battement, donc sa diastole, systole, encore une fois, voilà. Et là, vous le gardez vivant, vous n'aurez pas une connaissance exhaustive, mais vous aurez une connaissance plus vivante. Le toucher, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Toucher, ce n'est pas saisir. Mmh. Voilà. C'est très important pour moi, le fait que quand on porte la main, on laisse l'autre s'en aller s'il a envie.
Claire Richard.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pensais, je pensais à plusieurs choses. Je pensais à l'idée aussi que du coup, moi, mon livre, il se présente sous forme de fragments. Et le vôtre aussi a une série de sections de tailles différentes. Et que ça, c'est cette même idée aussi de trouver une forme qui, comme le fragment, agence des constellations. Mais entre chaque fragment, par définition, il y a des vides et il y a des trous et c'est là où l'air passe. Et sur effectivement sur cette question du toucher, moi j'avais été très frappée de voir ça avec et j'en parle un moment dans une section avec mon fils, puisque c'est l'espèce de champ d'expérimentation pour moi du toucher, que si moi je veux le toucher et que lui ne veut pas, il s'échappe et qu'effectivement, à moins d'assumer d'entrer dans un champ de contraintes, ce qui est encore autre chose, se toucher, il met toujours ça en jeu, en fait. Est-ce que la rencontre elle se fait ou non, si l'autre ne veut pas? Dans un terrain où on fait fi des dominations sociales et des ordres du toucher, ce qui est quand même un peu autre chose, mais l'autre a toujours la possibilité de s'en échapper.
Georges Didi Huberman, vous avez parlé de papillons il y a quelques instants, ça me fait penser à notre lectrice Anna qui a lu vos œuvres et qui va nous dire ce qu'elle en pense. Elle y voit aussi beaucoup de poésie. On écoute Anna.
La bibliothèque de Didi Huberman est très heuristique, morphologique, dynamique, vaste, riche de concepts poétiques et philosophiques, riche de citations. Elle est faite de bifurcations. Ses derniers séminaires au Kral, qui portent le titre « Fait d'affect », qui est aussi à l'origine de son dernier ouvrage publié il y a quelques semaines, ouvriront une fois de plus les frontières dans les théories des images. Il y a beaucoup de détails et d'explications dans ces textes, et de manière très précise, plusieurs faits sont abordés. Comme disait Warburg, le bon Dieu se trouve dans les détails. S'il fallait choisir deux livres au choix, donc sur les 13 lus, j'aurais du mal. Mais j'ai beaucoup aimé « Nympha fluida », essai sur le drapé désir publié aux éditions Gallimard en 2015. Le second ouvrage, qui est très poétique, c'est « La survivance des Lucioles » publié aux éditions de Minuit. Voilà, merci.
Et on est certain qu'Anna lira dès jeudi donc « Brouillard de peine et de désir » de Georges Didier Huberman. Une réaction?
Alors j'ai une réaction en retard, moi je suis toujours en retard, j'ai une réaction à ce que Claire racontait, et tout à coup je me suis souvenu que dans ce livre qui est plein de références philosophiques ou quoi, enfin de une espèce de tentative d'élaboration, il y a quand même deux moments dont un est un jeu de mots, penser passé, comme ça serait un jeu de mots à la Pérec, si vous voulez. Penser passé, penser comme on passe sa main sur qui ? Sur le front de l'enfant qui vient de naître. Donc en fait, on a partagé, on n'a pas partagé la même expérience, bien sûr, mais la question de l'être qui naît et qui est complètement fragile. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que penser lorsqu'on pose sa main et on la pose pas sans bouger, on passe sa main sur la tête d'un enfant. Voilà.
Il y a aussi deux moments dans vos deux livres qui résonnent. Ce sont évidemment ces moments de larmes, celle de votre bébé Claire Richard lors de ses premiers jours à la crèche. Et vous, Georges Didier Huberman, on va terminer par les larmes, c'est pas grave. Vous nous parlez évidemment des larmes d'Achille dans l'Iliade, qui sont autant d'émotions qu'il vit, le désir, la colère, le courage, l'affliction. Ça veut dire quoi, les larmes ?
Eh ben, ça veut dire ce moment qui est à la fois un moment d'impouvoir, on n'a plus de pouvoir, et les larmes surgissent. Et alors, dans l'anthropologie de la Grèce antique, les larmes sont une puissance. C'est une puissance physique, comme le sperme, par exemple, ou le sang. Ou, voilà, donc c'est de la puissance qui sort. Et j'avais écrit, toujours chez Minuit, un précédent livre qui s'appelait Peuples en larmes, c'est-à-dire comment, à partir d'un moment de creux et de deuil, eh bien, on décide de s'émanciper, de se soulever.
Émancipation par le sanglot. Claire Richard, un mot sur ces larmes. Quand on dit que c'est de l'impuissance, ça veut dire que...
Un pouvoir. Voilà.
Alors,
voilà.
Quelle différence
pouvoir, mais puissance. Eh bien, quand vous n'avez pas de pouvoir, ça veut dire que vous ne pouvez rien sur l'autre. Mais ça, vous pouvez développer une puissance qui est la puissance, par exemple, d'exprimer votre douleur. C'est une puissance. Là, je suis Gilles Deleuze complètement là-dessus.
ça résonne. De fait, dans un contexte beaucoup plus prosaïque, les larmes du nourrisson et même quelque part, en fait, je sais pas si larmes serait le bon terme, puisque larmes, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est effectivement déjà codé, en fait, une forme. Les larmes, là, c'est un jaillissement. Des hurlements, donc peut-être un peu tôt pour parler de larmes dans ce sens-là. Je sais pas, c'est une réflexion qui me vient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'était la cristallisation de cet impouvoir que nous, on avait face à cet être neuf, et dont toute la question, c'est de construire, en fait, le langage commun qui va d'abord passer par les mains et autres. Et ces hurlements, ces cris, ces larmes, pour être la manifestation du fait que ces liens étaient encore trop lointains pour qu'on se comprenne vraiment.
Et on va s'arrêter là. Je suis désolé, Richard, Didier Huberman et Claire Richard. Merci beaucoup d'être venu dans le Book Club. Je rappelle donc votre essai. Vous venez de publier Des mains heureuses, une archéologie du toucher aux éditions du Seuil. Et vous, Georges Didier Huberman, vous publiez ce jeudi Brouillard de peine et de désir, sous-titré Fait d'affect aux éditions de Minuit. Ainsi que je renvoie aussi à la revue Critique, pardon, qui vous est entièrement consacrée.
Je voulais dire, c'est que quand...
Et la discussion se poursuit sur le Book Club, évidemment, 13h25 sur France Culture. Voici Charles Danzig.
La littérature de fiction a une fonction essentielle, d'arracher à la vie tout ce que la vie se cache. La fiction est la plus grande destructrice d'hypocrisie qui puisse exister. On pourrait également dire quelle est la voix du minoritaire face à la vie majoritaire, laquelle l'est souvent dans de telles proportions qu'elle tend au totalitaire. C'est le problème de toute majorité, n'est-ce pas, quand elle est énorme. Quand les majorités sont partagées, comme entre nombre d'hommes et nombre de femmes, s'il y a des dominés, leur voix se fait entendre. Les femmes ont toujours publié des livres où elles se moquaient des prétentions des hommes. Christine de Pizan ne faisait pas autre chose au XVe siècle, ni Edith Wharton au XXe. C'est quand les majorités sont, disons, de 7/10 ou davantage, que leurs membres, ne se trouvant pour ainsi dire que parmi des semblables, ne voient pas les minoritaires. S'ils les aperçoivent, tout au mieux, ils les tolèrent, ce qui est une manière de continuer à ne pas les voir. La vie est une organisation hypocrite d'invisibilité. Eh bien, la fiction, le roman essentiellement, vient chasser cela en sortant des pans entiers de la vie de cette invisibilité. La fiction oriente sa torche vers le noir et dit « regarde ». Elle le fait parfois au moyen de romans illustratifs qui ont le défaut de prendre les lecteurs pour des touristes que l'on guide. Par exemple, « La jungle » où Upton Sinclair, en 1906, décrit la vie d'émigrés lituaniens qui travaillent dans les abattoirs de Chicago. Le moyen le plus efficace, ce sont les personnages. Les ouvriers, qui étaient entrés dans la fiction grâce à Dickens, avaient été mieux servis par son roman « Les temps difficiles » où leur malheur n'était pas montré, mais vécu. Un bon écrivain ne montre pas, il est. Ses livres portent davantage. De là d'ailleurs que le roman de Dickens a été mal accueilli. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les ouvriers, mais il est possible qu'ils ne l'aient pas apprécié. Aucune catégorie n'est contente quand on parle d'elle dans un livre. C'est qu'elle comprend mal la fiction. Un bon écrivain ne décrit pas une catégorie, il crée des personnages. Les membres d'une catégorie extrapolent volontiers de ces personnages à la catégorie même. D'un personnage de boulanger, ils pensent « l'auteur a voulu montrer la boulangerie ». Et comme un personnage a nécessairement des défauts, ils protestent. Le créateur de personnages ne veut en aucun cas montrer une catégorie, parce que pour commencer, une catégorie n'existe pas ou n'existe que sur un point, le métier, l'appartenance ethnique, le goût sexuel... Personne n'est jamais une seule chose. On n'est jamais que boulanger, que zoroastrien, que lesbienne. On peut être les trois, une lesbienne, boulangère et zoroastrienne. Vous voyez comme la variété est plus intéressante déjà. C'est ce qu'est un personnage varié. Et c'est cette variété qui apporte avec elle l'authenticité.
Les quadritèmes de Charles Danzig à retrouver sur francecultures.fr et sur l'appli Radio France. Je dis un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Zora Vignet, Oriane Delacroix, Didier Pinot et Alexandra Labegovic. Thomas Beau est à la réalisation et à la prise de son ce midi. Lucas Finet et Ruben Carmazine. Voici donc l'épilogue de ce lundi et nous on se retrouve demain.
Quand on regarde, on est regardé. Quand on est regardé, il arrive qu'on soit touché.
Bah, je suis très touchée, ce qui est un peu évident.
On peut avoir des gestes de son époque, mais si justement vous donnez naissance, vous allez avoir des gestes qui dépassent votre présent.
J'aimerais tant pouvoir déplier le millefeuille qui aboutit à ces gestes et comprendre comment ils voyagent.
C'est leur côté papillon.